Lizzie présente Une vie française de Jean-Paul Dubois, lu par Laurent Matrella. À Louis, mon petit-fils. À Claire, Didier, mes enfants. Et Frédéric, eux. Vous êtes le grand-père, n'est-ce pas? Dans cet hôpital, les grands-pères sont très appréciés. Et le petit corps de l'enfant adhéra à sa poitrine, à ses bras, avec moins de force pourtant que les nourrissons qu'il avait eu la présomption de considérer comme les siens. Personne ne nous appartient, excepté dans nos souvenirs. John Updike. L'homme est plus petit que lui-même. Günther Anders. Charles de Gaulle. 4 octobre 1958, 28 avril 1969. Et ma mère tomba à genoux. Je n'avais jamais vu quelqu'un s'affaisser avec autant de soudaineté. Elle n'avait même pas eu le temps de raccrocher le téléphone. J'étais à l'autre bout du couloir, mais je pouvais percevoir chacun de ses sanglots et les tremblements qui parcouraient son corps. Ses mains sur son visage ressemblaient à un pansement dérisoire. Mon père s'approcha d'elle, raccrocha le combiné et s'effondra à son tour dans le fauteuil de l'entrée. Il baissa la tête et se mit à pleurer. Silencieux. Terrifié, je demeurai immobile à l'extrémité de ce long corridor. En me tenant à distance de mes parents, j'avais le sentiment de retarder l'échéance, de me préserver encore quelques instants d'une terrible nouvelle dont je devinais pourtant la teneur. Je restais donc là, debout, en lisière de la douleur, la peau brûlante et l'œil aux aguets, observant la vitesse de propagation du malheur, attendant d'être soufflé à mon tour. Mon frère Vincent est mort le dimanche 28 septembre 1958 à Toulouse, en début de soirée. La télévision venait d'annoncer que 17 668 790 Français avaient finalement adopté la nouvelle constitution de la Ve République. Ce jour-là, ni mon père ni ma mère n'avaient pris le temps d'aller voter. Ils avaient passé la journée au chevet de mon frère dont l'état avait empiré la veille au soir. Opéré d'une appendicite, compliqué d'une péritonite aiguë, il avait perdu connaissance en milieu de journée. Je me souviens que le médecin de garde avait longuement reçu mes parents pour les préparer à une issue qui, à ses yeux, ne faisait plus guère de doute. Durant cet entretien, j'étais resté assis sur une chaise dans le couloir, à me demander ce qui pouvait bien se dire derrière cette porte et que je ne devais pas entendre. Je pensais à mon frère, à tout ce qu'il aurait à me raconter lorsqu'il sortirait de l'hôpital, et j'enviais déjà le statut de héros, de rescapé dont il allait jouir pendant quelques semaines. À l'époque, j'avais 8 ans et Vincent à peine 10. Ce modeste écart était en réalité considérable. Pour son âge, Vincent était un colosse, un enfant sculptural, que l'on eût dit bâti pour construire les assises d'un nouveau monde. Doté d'une surprenante maturité, il m'expliquait avec patience les vicissitudes du monde des adultes, tout en me protégeant de ses aléas. À l'école, il jouissait d'une popularité sans égale, mais n'hésitait pas, lorsque cela lui semblait juste, à tenir tête à un professeur ou aux parents. Tout cela lui conférait à mes yeux une stature de géant. Auprès de lui, je me sentais à l'abri des inconstances de la vie. Et aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa mort, lorsque j'évoque notre jeunesse, il demeure ce géant tant aimé et admiré. Lorsque mon père se souleva péniblement de son fauteuil et s'avança vers moi, on eût dit un vieillard. Il semblait tirer derrière lui une charge invisible qui entravait sa démarche. Je le regardais s'approcher et devinais confusément qu'il allait m'annoncer la fin du monde. Il posa la main sur mon bras et dit « Ton frère vient de mourir ». Sans égard pour le visage supplicié de mon père, sans lui témoigner le moindre geste d'affection, je me précipitai dans la chambre de Vincent et m'emparai de son carrosse en métal chromé tiré par 6 chevaux blancs. Ce jouet, ou plutôt ce souvenir, lui avait été rapporté de Londres 2 ans auparavant par notre oncle, petit homme louche et antipathique, mais grand voyageur. L'objet provenait sans doute d'une banale boutique de souvenirs située près de Buckingham, mais son poids, l'éclat de sa matière, la précision des détails de la voiture, de ses lanternes comme de ses roues, la puissance que dégageait la foulée des chevaux, avait, pour moi, valeur de talisman. S'il n'eût déjà été un enfant exceptionnel, cet objet, à lui seul, aurait suffi à conférer à mon frère toutes les marques du prestige. Jamais Vincent ne me prêtait l'attelage, prétextant qu'il était trop fragile et moi bien trop jeune pour jouer avec pareil ensemble. Parfois, il le déposait sur le parquet du salon et me demandait de coller mon oreille contre les lames. Il disait « Ne bouge pas, ne fais aucun bruit et ferme les yeux. Tu vas entendre le bruit des sabots des chevaux. » Et bien sûr, je les entendais. Je les voyais même passer devant moi au grand galop, menés par mon frère, intrépide cocher, juché au sommet de l'étincelante nacelle qui brinque-ballait sur ses suspensions. Je sentais alors confusément que j'étais au cœur même de l'enfance, ce monde angésine auquel nous insufflions chaque jour notre force de vie. Et je voulais grandir et grandir encore, et plus vite et plus fort, à l'image de ce frère, prince et maître de cavalerie. À l'instant de sa mort, mon premier réflexe fut donc de le dépouiller et de m'emparer de l'objet, de le voler, avec des gestes fiévreux d'héritier félon. Sans doute avais-je peur que Vincent n'emporte ce carrosse dans la tombe. Peut-être espérais-je, avec cet objet interdit et sacré, m'attribuer une part de sa gloire, de sa légitimité, et devenir un aîné à tout le moins capable de détrousser les défunts et de faire trotter leurs chevaux de plomb. Oui, à l'heure de sa mort, j'ai volé mon frère, sans remords, sans regret, sans même verser une larme. Je me nomme Paul Blick. J'ai 54 ans, un âge embarrassant qui hésite entre deux perspectives de l'existence, deux mondes contradictoires. Chaque jour, les traits de mon visage se recouvrent des fines pellicules de l'âge. J'avale régulièrement du phosphate de disopyramide, du chlorhydrate de propanolol, et comme tout le monde, j'ai arrêté de fumer. Je vis seul, je dîne seul, je vieillis seul, même si je m'efforce de garder le contact avec mes 2 enfants et mon petit-fils. Malgré son jeune âge, il va avoir 5 ans. Je retrouve parfois sur son visage certaines expressions de mon frère, mais aussi cette assurance, cette sérénité que Vincent affichait pour traverser la vie. À l'image de mon frère, cet enfant semble habiter d'une paisible énergie et croiser son regard lumineux et scrutateur est toujours une expérience troublante. Pour le 4e anniversaire de Louis, j'ai descendu le carrosse des étagères du haut de la bibliothèque et je l'ai déposé devant lui. Il a longuement examiné l'objet, les roues, les chevaux, sans les toucher. Nullement subjugué, il paraissait plutôt dresser un inventaire mental de chacun des détails. Au bout d'un moment, je lui ai dit que, s'il collait son oreille sur le parquet, peut-être entendrait-il à son tour le bruit des sabots. Sceptique, il s'accroupit tout de même, et dans cette posture, m'offrit l'espace d'une seconde entrebâillée, le bonheur d'entrevoir ma jeunesse défiler au grand galop. L'enterrement de Vincent fut un moment effroyable. Et je peux dire que depuis ce jour, malgré nos efforts, mes parents et moi-même n'avons jamais pu parvenir à reformer une véritable famille. À l'issue de la cérémonie, mon père me remit l'appareil photo Brownie Flash Kodak de mon frère, sans imaginer que plus tard cet objet allait changer ma vie. La mort de Vincent nous a amputés d'une partie de nos vies et d'un certain nombre de sentiments essentiels. Elle a profondément modifié le visage de ma mère au point de lui donner en quelques mois les traits d'une inconnue. Dans le même temps, son corps s'est décharné, creusé, comme aspiré par un grand vide intérieur. La disparition de Vincent a aussi paralysé tous ses gestes de tendresse. Jusque-là si affectueuse, ma mère s'est transformée en une sorte de marâtre indifférente et distante. Mon père, autrefois si disert, si enjoué, s'est muré dans la tristesse, le silence, et nos repas, jadis exubérants, ont ressemblé à des dîners de gisants. Oui, après 1958, le bonheur nous quitta.